une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Pour être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SMJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette semaine, je vais laisser la parole à Adrien Schwitter, journaliste tech pour le magazine Challenge. Salut Adrien.
Salut Emmanuel.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de terres rares, de Doliprane et de Huawei.
Imaginez, nous sommes en 2025. Après des années de tests de défense de l'île, la Chine a enfin attaqué Taïwan au cours de l'été. Xi Jinping l'avait promis, sans vraiment être pris au sérieux. D'ici 2050, la Chine serait à nouveau réunie. Si l'opération spéciale ne s'est pas vraiment passée comme prévu, la guerre fait rage depuis plusieurs semaines. Les Américains aident la résistance de Taipei, épaulée par les forces de l'OTAN. De nombreuses cyberattaques sont signalées dans les aéroports européens, perturbant gravement le trafic. Et la menace nucléaire est dans l'air. L'Union européenne, elle, vient de voter un lourd paquet de sanctions contre la Chine. Problème, l'UE et la France en premier lieu ne peuvent se passer de nombreuses ressources de l'Empire du Milieu. Impossible sans elles de pouvoir faire fonctionner leurs économies et tous les véhicules électriques qui sont devenus la norme. Ce scénario fiction vous rappelle quelque chose ? Si nous ne sommes qu'en 2023 et que la guerre qui occupe une bonne partie du monde actuellement se trouve en Europe de l'Est, les tensions géopolitiques poussent à imaginer le pire. L'heure de la mondialisation totale semble avoir vécu. Pour l'instant, la Chine a proclamé son partenariat stratégique sans limite avec la Russie, en soutenant officieusement la guerre en Ukraine. Mais que se passerait-il si le pays décidait de fournir des armes à la Russie ? Que se passerait-il si Pékin mettait sa menace à exécution et attaquait réellement Taïwan ?
Nul doute que les pays européens et les Américains réagiraient effectivement. Mais jusqu'où pourraient-ils aller ?
C'est toute la question, Emmanuel. Si l'Europe a réussi en un an à se passer du pétrole russe et à plafonner le prix du gaz, qu'en serait-il pour la Chine, qui a un mastodonte bien plus puissant dans les échanges internationaux ? Peut-on vraiment se passer de la Chine ? Cette idée n'est vraiment pas nouvelle. À intervalles réguliers, vous voyez le sujet ressurgir dans le débat public. Doit-on parler des droits de l'homme en Chine avant les Jeux Olympiques de Pékin de 2008 ? Huawei nous espionne-t-il avec sa 5G et ses smartphones ? Est-ce vraiment si innocent pour nos données ? Dois-je continuer à acheter des vêtements dont le coton provient du Xinjiang, alors même que les Ouïghours sont victimes de travail forcé là-bas ? Sous des formes variées, les questionnements et la défiance à l'égard de la Chine occupent le débat public depuis plusieurs années. L'Europe semblait avoir tranché il y a 4 ans. Dans un maelstrom dont l'UE a le secret, l'Empire du Milieu était défini comme un partenaire, un concurrent et un rival systémique. Ce qui ne faisait pas vraiment avancer le débat sur le fond. Plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine, avec les pénuries de masques durant la pandémie de coronavirus, la France a découvert qu'elle ne pouvait pas s'en sortir toute seule. Alors peut-on se passer de la Chine du jour au lendemain, si la situation mondiale l'exige ? Pour Françoise Nicolas, économiste et directrice du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, la réponse est assez simple.
Non, parce que on a en grande partie laissé se développer cette situation de dépendance vis-à-vis de la Chine. Parce qu'on a laissé partir toute une série de productions en Chine, soit parce que c'était trop coûteux de les produire chez nous, soit parce que c'était aussi trop sale de les produire chez nous, pour revenir là-dessus et sur des exemples concrets. Et du coup, on a laissé partir ces productions et on se retrouve maintenant très dépendant. Alors, c'est une situation qui est un peu fabriquée de main d'homme, mais c'est une réalité. Donc, du coup, se passer de la Chine, ça serait assez compliqué.
Depuis l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, en 2001, les délocalisations se sont multipliées. Surtout, la mondialisation s'est accélérée et la Chine est devenue très rapidement l'usine du monde. Ce qui posait certes des problèmes éthiques en temps de paix ou d'empreinte carbone, mais c'est beaucoup plus embêtant en cas de guerre.
Alors, prenons quelques exemples. Quels sont les domaines où la France ne peut se passer de la Chine ?
La Chine, ce n'est pas que le pays des masques sanitaires. Si la Chine est devenue une puissance industrielle incontournable du XXIe siècle, c'est grâce aux terres rares, qui sont des métaux essentiels pour construire des biens de haute technologie. Il en faut pour construire une batterie, un écran, donc un smartphone, une ampoule, des véhicules électriques ou même des éoliennes. Petit quiz, Emmanuel. Sachant que l'avion de chasse américain le plus récent, le F-35, pèse 19 tonnes, quel poids de terres rares sont nécessaires à sa construction ?
Je sais pas, c'est peut-être un piège. Je dirais 18,9 tonnes.
Pas loin. Il faut 145 kg de terres rares pour construire un F-35. La Chine affole régulièrement les pays occidentaux en menaçant de couper ses exportations de terres rares. Un moyen de rappeler qui est le patron.
Ce qui est le patron ?
C'est moi.
Ce qui est problématique. En 2022, le pays a extrait 58% des terres rares dans le monde. Niveau raffinage, la dépendance est encore plus importante. La Chine pèse 89% du total. Elle exporte même 92% des composants à base de terres rares. Une situation de totale dépendance, en somme, d'après Françoise Nicolas.
On a laissé faire ça à la Chine dans les années 90. Et on a laissé faire ça à la Chine. Et conclusion, au bout d'un moment, la Chine a un quasi-monopole sur la production des terres rares. Alors, c'est embêtant parce que ces terres rares, elles sont partout. Elles sont dans le téléphone qui vous permet d'enregistrer. Elles permettent de fabriquer des aimants. Et les aimants, il y en a partout.
Donc, l'électronique.
Voilà. Toute l'électronique dépend de ça. Donc, enfin, semi-conducteur, il y a des terres rares. Il y a des terres rares partout. Et conclusion, là, on est vraiment très, très emprunté et très embêté parce qu'on est très, très dépendant de la Chine. Mais on a laissé faire ça... nous-mêmes.
Mais du coup, que faire ? On est coincé sur ces terres rares s'il n'y a que des gisements en Chine.
C'est ce qu'on pourrait croire à première vue. En réalité, c'est plus simple.
Contrairement à ce que le nom indique, les terres rares en question ne sont absolument pas rares, il y en a partout. Mais elles sont extrêmement sales à produire. Ça pollue beaucoup, il faut beaucoup d'eau, enfin bon, c'est compliqué. Et nous, on ne voulait pas s'enquiquiner, pour parler cru, avec ce genre de production.
Si la France veut se passer de la Chine du jour au lendemain, il faudrait dire au revoir à quasiment tous les produits électroniques, ce qui risque de compliquer un poil la vie quotidienne de bon nombre de personnes. Plus grave, les pays européens sont dépendants de la Chine pour pouvoir avoir accès à des médicaments. Comme l'a très bien raconté Stéphanie dans l'épisode « Doit-on nationaliser le Doliprane ?», grand nombre des principes actifs des médicaments proviennent aujourd'hui en très grande majorité d'Inde et surtout de Chine. On estime ce pourcentage à 80% du total. C'est ce qui a posé problème en fin d'année dernière quand il y avait une pénurie de Doliprane pour enfants. Là encore, la production de médicaments basiques, où la valeur ajoutée est faible, est sous-traitée dans des pays dans lesquels la production coûte moins cher, afin que les laboratoires puissent réaliser une marge plus importante. Comme pour les terres rares, la production de ces principes actifs est très polluante. Cela arrange bien de nombreux pays occidentaux de sous-traiter le sujet à l'étranger, ce qui ne permet pas à la France aujourd'hui de se passer de la Chine.
Les médicaments, c'est un bon exemple, parce que là, je ne suis pas sûr que la Chine veuille nous mettre à genoux en arrêtant de nous exporter de l'aspirine, du paracétamol, mais malgré nous, ça nous place quand même en position un peu délicate, parce que si eux ont besoin de beaucoup de paracétamol pour je ne sais trop quelle raison obscure, parce qu'il y a un nouveau variant de je ne sais trop quelle maladie qui se développe, là, on se retrouvera très très embêté. Donc on s'est rendu compte que là aussi, on avait laissé trop de choses se produire ailleurs que chez nous, et on se mettait nous-mêmes dans une situation de vulnérabilité trop importante.
Après la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine, l'heure est à la prise de conscience des faiblesses du pays. Et à écouter notre président en visite à Pékin au mois d'avril, il faut trouver le plan pour s'en sortir.
Il ne faut pas de naïveté, c'est ce que notre Union européenne, je m'en félicite, actant cette démarche de souveraineté européenne que j'ai défendue il y a 5 ans, bâtit des instruments de défense commerciale qui sont nécessaires à notre crédibilité, mais doit aussi s'engager avec volontarisme pour continuer d'avoir une relation commerciale avec la Chine. Et donc il nous faut en quelque sorte dérisquer nos économies, ne jamais dépendre totalement. Et d'ailleurs, c'est ce que la Chine veut pour elle-même quand elle regarde l'Europe ou les États-Unis. Mais il ne faut pas nous désassocier et nous séparer dans une logique qui, en quelque sorte, viserait à penser que nous avons vocation à terme à ne plus rien faire ensemble, ce qui serait, à mes yeux, une erreur funeste.
On l'a bien compris. Même au plus haut niveau de l'État, la France est bien dépendante de la Chine. La stratégie mise en avant par Emmanuel Macron, c'est de dérisquer cette situation. Pour Françoise Nicolas, l'idée peut fonctionner, pas forcément tout de suite, mais d'ici quelques années.
Ce que l'on essaie de faire, nous, Européens, c'est du dérisking, comme ils appellent ça. Ce qui est une expression pas très française, mais bon, peu importe. On essaie de réduire nos dépendances vis-à-vis de la Chine, mais on n'a pas la prétention, parce que je pense qu'on est assez réaliste, de se découpler complètement par rapport à la Chine, c'est-à-dire de se séparer complètement de la Chine. C'est pas possible. Alors, on va essayer de diversifier les approvisionnements, les partenariats, et du coup, si on ne met pas tous les œufs dans le panier chinois, bon, on sera plus à l'aise et on pourra éventuellement limiter les interactions avec la Chine en se reportant sur d'autres fournisseurs. Donc ça, c'est la nouvelle stratégie européenne qui est en réalité du gros bon sens. C'est tout.
Pour les terres rares, par exemple, la Suède vient de trouver les plus importants gisements européens. Un bon moyen de diversifier les approvisionnements, même s'il faudra au minimum une dizaine d'années pour en voir le résultat effectif. La France suit en la matière la stratégie du Japon. Dès 2010, le pays a compris qu'il ne pouvait dépendre uniquement de la Chine pour ses terres rares. Une dizaine d'années plus tard, il n'en importe plus que 58%. Entre-temps, le pays a investi partout dans le monde afin d'ouvrir des gisements de métaux rares. Donc, la France veut faire pareil, du dérisking, contrairement aux États-Unis qui veulent aller plus loin et parlent de découplage, c'est-à-dire réduire le plus possible tout type d'échange avec la Chine.
La réduction des dépendances, précisément, elle est ciblée. L'idée du côté de l'Europe, c'est qu'on va réduire les dépendances vis-à-vis de la Chine dans les secteurs où c'est vraiment gênant d'être dépendant. C'est tout. Donc dans les secteurs qui sont jugés critiques, stratégiques, alors après, il faut définir ce qui est critique et stratégique, et ça, c'est pas nécessairement très simple. Mais c'est ça l'idée. Et on ne veut pas se couper de la Chine sur tout. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on n'est pas du tout sur la même ligne que les Américains. Parce que, bon, franchement, qu'on laisse encore produire des t-shirts à 1 euro en Chine, je ne pense pas que ça soit vraiment problématique. Ça, ce n'est pas très, très stratégique. Et si d'aventure, ils arrêtent de nous exporter des t-shirts, bon, bah, ça ne fait rien, on peut survivre, il n'y a pas de problème. Après, pour tout ce qui est beaucoup plus indispensable, là, c'est gênant. Et c'est là-dessus, sur ces secteurs-là, qu'on va essayer de diversifier, de s'approvisionner à différents endroits et pas exclusivement en Chine.
Donc, on va aller chercher d'autres partenaires commerciaux que la Chine pour accroître la souveraineté de la France. Sauf que cela ne va pas se réaliser très rapidement. En fonction des secteurs, cela pourrait prendre jusqu'à 10 ans. Une première réponse tient dans l'annonce mi-avril de la création d'un fonds d'investissement de 2 milliards d'euros pour faciliter l'accès aux matériaux critiques afin de favoriser la transition écologique. L'État va investir 500 millions d'euros dans ce fonds via la Caisse des dépôts afin de permettre à la France de se placer dans la course aux métaux. D'ici à 2040, la demande risque de quadrupler selon l'Agence internationale de l'énergie. Sauf que cette nouvelle stratégie d'indépendance et de souveraineté va avoir un prix selon Françoise Nicolas.
Il y a un problème avec ça, malgré tout. Parce que ça, c'est une position quasi politique qui est prise. Ce qu'il faudrait quand même que les consommateurs comprennent, ce que les citoyens comprennent, c'est que par définition, cette stratégie va déboucher sur des hausses de prix. Ça, faut pas rêver. Ça va être beaucoup plus coûteux. Alors, on sera plus confortable quelque part parce qu'on sera pas à la merci de ce partenaire qui est la Chine, mais ça va être plus coûteux. Et là, il va falloir accepter ça. Bon, il va falloir vendre ce discours-là, et ça, c'est l'affaire des politiques qui se débrouillent. Mais il faut bien être conscient de ça. Il y a un prix à tout, et le prix de, pas de l'indépendance, mais en tout cas de la réduction de l'indépendance, il n'est pas neutre.
Donc, en théorie, la Chine pourrait mettre les pays européens et la France en fâcheuse posture si elle décide du jour au lendemain d'arrêter certaines exportations stratégiques.
Oui, c'est très vrai, Emmanuel. Pourtant, cela ne risque pas de se produire, car la Chine a paradoxalement aussi besoin de nous et des pays occidentaux afin de faire fonctionner son économie. Les importations en provenance de Chine sont passées pour l'Union européenne de 25 milliards d'euros par mois à la fin 2019 à plus de 40 milliards d'euros début 2022. Les importations de biens chinois en France ont bondi l'année dernière, en hausse de plus de 20% à 77,7 milliards d'euros. Ça concerne bien sûr l'achat de matériel électrique, des produits informatiques ou électroniques, le textile et l'habillement.
Si on regarde ce que fait la Chine, malgré tout, sa croissance, elle s'appuie essentiellement sur les investissements et les exportations. Et très peu sur la consommation interne. Alors, ça fait 15 ans qu'ils disent qu'il faut rééquilibrer un petit peu ces différents moteurs de la croissance et essayer de développer la consommation interne. Mis à part qu'ils n'y arrivent pas. Donc, les exportations sont toujours très importantes pour la Chine. Et ça, je pense que ça va encore demeurer.
En 2020, le président chinois Xi Jinping a dévoilé sa nouvelle stratégie de double circulation afin, lui aussi, de gagner en autonomie face à l'étranger. Une stratégie qui n'a pas vraiment porté ses fruits, d'après Françoise Nicolas.
Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez leur fameuse stratégie de double circulation, cette stratégie de double circulation, c'est d'une part s'autonomiser, en partie, et l'autonomisation, il y a deux volets. Il y a l'autonomisation en développant le marché intérieur, donc la consommation intérieure, ça c'est un morceau, enfin un volet de l'autonomisation. Et l'autre volet de l'autonomisation, c'est l'autonomisation technologique. Et c'est le programme Made in China 2025, revu et corrigé, qui a changé de nom et peu importe, ont une certaine autonomisation technologique. Ça, c'est l'aspect circulation interne. On va essayer de faire fonctionner la machine chinoise plus sur elle-même, en quelque sorte. Mais il y a le deuxième volet de cette stratégie de double circulation, et le deuxième volet, c'est la circulation extérieure. Et la circulation extérieure, c'est essentiellement les exportations. Donc la Chine compte encore et toujours reposer sur les exportations et reposer la croissance de son économie sur les exportations. Et c'est assez marrant parce que ce qu'elle veut faire, c'est s'autonomiser vis-à-vis du reste du monde pour ce qui concerne les importations, mais elle veut continuer à exporter. Donc elle veut en réalité avoir le beurre, l'argent du beurre, et éventuellement la bise de la crémière.
Même si des tensions peuvent naître entre la France et la Chine, en réalité, les deux pays sont en l'état actuel des choses dépendants les uns des autres. Certes, la France ne peut se passer aujourd'hui de la Chine pour ses terres rares ou ses principes actifs de médicaments, mais Pékin ne peut pas non plus faire une croix sur les pays occidentaux pour acheter ce que le pays produit. C'est cette interdépendance qui permet à l'économiste, spécialiste de la Chine, de parier sur le statu quo chinois face aux demandes russes pour plus d'armes. In fine, c'est ce qui protège l'Europe et la France de toute dégradation de la relation commerciale.
Parce que précisément, la Chine Les autorités chinoises ne sont pas complètement stupides. Alors, il y a une position dogmatique, politique, quasi idéologique. Mais, ils voient bien que l'Union européenne, c'est quand même leur principal partenaire commercial, les États-Unis aussi, alors que la Russie, c'est un tout petit partenaire. Donc, ils sont très pragmatiques, les Chinois, il ne faut pas rêver. Ils voient bien qu'il vaut mieux aussi ne pas aller trop loin vis-à-vis de ceux qui les font vivre économiquement. Donc, de ce point de vue-là, moi, je suis quand même relativement tranquille, et c'est pour ça que je ne suis pas du tout sûr qu'ils aillent plus loin dans le soutien à la Russie. Pour l'instant, il y a officiellement une neutralité, en réalité un soutien politique, mais c'est tout. Donc c'est un soutien qui est plutôt au niveau déclaratoire, hein, au niveau rhétorique, mais dans la réalité, il n'y a pas de soutien militaire. Alors bon, il y a peut-être des petites choses qui sont données, oui, peut-être. Mais enfin, en tout cas, il n'y a pas un soutien militaire vraiment visible, avec des armes lourdes, parce que là, ils savent très bien que ça serait une ligne rouge franchie vis-à-vis à la fois des États-Unis et de l'Union européenne. Et là, on rentrerait alors dans un tout autre jeu. Et ça, je pense que la Chine n'a absolument pas intérêt à ça. Et à mon avis, la Chine est parfaitement pragmatique.
Du coup, pas besoin de garder précieusement votre smartphone sous votre lit afin de démonter la batterie et récupérer les métaux rares se trouvant à l'intérieur. Pas besoin non plus de regarder des tutos sur YouTube pour apprendre à fabriquer soi-même les principes actifs de l'amoxicilline ou du paracétamol. Le temps des embargos et des pénuries ne semble pas pour tout de suite. Si la France ne peut pas se passer de la Chine, pour l'instant, la situation perdure, car l'inverse est tout aussi vrai.
Merci Adrien pour cet épisode qui se conclut sur une note plus rassurante que son introduction. Si vous aussi vous l'avez aimé et que vous aimez Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain.
Splash est un podcast de nouvelles écoutes, écrit et animé par moi, Adrien Schuiter, en compagnie d'Emmanuel Martin. Prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'Arrière Boutique Studio. Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jeunin. Produit par Julien Neuville, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice des productions Marion Gourdon, directrice artistique Aurore Mailleux, chargée de production Mathilde Jeunin, avec l'aide de Neila Acmi.